Bienvenue à la table ronde sur les nouveaux mondes du système solaire. Parmi nos invités, nous avons donc un auteur anglophone, Peter Watts, qui se trouve à votre extrême droite, mais ce n'est certainement pas son cas. Ce qui veut dire que si vous désirez utiliser, nous fournissons un système de traduction simultanée pour lesquels les écouteurs sont distribués là-bas près de l'arbre. Donc, je vais faire les présentations et ceci donnera le temps aux gens qui auraient besoin de la traduction simultanée de l'anglais au français de ramasser les écouteurs et de s'installer. Okay. Alors, je vais donc commencer par présenter justement Peter Watts, donc là-bas à l'autre bout de la tablée, auteur de plusieurs romans, d'un jeu vidéo, de nombreuses nouvelles et d'une rubrique mensuelle dans un magazine polonais de science-fiction. Un ancien biologiste marin vivant à Toronto. Ses œuvres ont été traduites en 18 langues et il a reçu des prix et nominations dans 7 de ces langues. Vision aveugle, son dernier roman paru au Fleuve Noir en 2009, mais je pense qu'il y en a eu d'autres depuis, a notamment reçu un prix pour le meilleur roman traduit en Espagne, un prix pour le meilleur roman étranger en Russie, ainsi que des prix Sphinx et Nast en Pologne, le prix Jacques Chambon, Grand Prix de l'Imaginaire 2010, pour la meilleure traduction par Gilles Goulet. Cependant, malgré de nombreuses nominations, le roman n'a pas remporté de prix dans sa langue d'origine. D'après l'auteur, cela pourrait indiquer qu'il doit beaucoup à ses traducteurs européens et il se propose de chercher un moyen de retraduire Vision aveugle en anglais. Son prochain roman, Echopraxia, sera publié en 2014. Précédemment, il a fait paraître en France Starfish, Rifter et Behemoth. Et pour citer un critique ontarien, James Nicol, on a affaire à un auteur qui est parfois d'humeur un peu noire. Et Nicol disait à son sujet que lorsque ma volonté de vivre prend un peu trop de place, je n'ai qu'à lire un peu de Peter Watts. Au centre de la tablée, nous avons Monsieur Olivier Grasset, originaire d'Ambert puis de Dôme. Olivier Grasset suit les classes préparatoires maths-sup bio au lycée du Parc à Lyon avant d'intégrer en 1988 l'École nationale supérieure de géologie de Nancy. Aujourd'hui professeur à l'Université de Nantes et directeur du laboratoire de planétologie et géodynamique Nantes-Angers, il dispose d'une double spécialité, la modélisation de la structure et de la dynamique des planètes et lunes, ainsi que l'expérimentation haute pression, basse température sur les matériaux glacés du système solaire. Depuis 5 ans, Olivier Grasset consacre davantage ses activités de recherche au sein de l'Agence spatiale européenne, avec comme objectif de préparer la future mission planétaire vers le système de Jupiter, qui a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour un lancement prévu en 2022. Donc, il lui aussi fait de l'anticipation. En 2009, il a fait paraître Planétologie, géologie des planètes et des satellites aux éditions du NOD. Alors évidemment, je pourrais sauter la présentation de la personne à ma gauche. Vous le connaissez tous, puisqu'il s'agit en fait du président de l'Association des Utopiales. Mais il n'est pas ici à ce titre. Il est en fait ici en tant qu'astrophysicien au service d'astrophysique du CEA de Saclay, président de l'association et, comme je disais, du Festival international de science-fiction de Nantes. Il a publié de nombreux livres et articles de vulgarisation scientifique. Il s'intéresse notamment au rapport entre science et science-fiction. Ainsi, il analyse avec précision et humour des films comme Star Wars et Avatar et a aussi décodé les super-pouvoirs de Superman et les aventures de Tintin. Depuis plusieurs années, il tient la chronique scientifique Scientifiction de la revue de SF Bifrost et tient également la rubrique Science et Fiction, il faut distinguer les deux, de la revue Pour la Science avec son collègue Steyer. Ses ouvrages SF, La science mène l'enquête, et la SF sous les feux de la science pour les éditions Le Premier, permettent d'aborder des thèmes de la science-fiction grâce aux outils de la physique. Il a aussi signé « Faire de la science-fiction avec Star Wars »,« Mission Caladan » avec Claude Aiken et « Les extraterrestres expliqués à mes enfants ». Je pense que tout le monde est maintenant prêt à les entendre. Alors, nous allons commencer par faire un peu de vulgarisation éclair. Je vais lancer quelques questions au sujet de certains des corps principaux du système solaire que nous avons eu l'occasion d'explorer depuis pratiquement une cinquantaine d'années. Et donc, en guise d'entrée en matière, je rappelle justement que nous vivons un âge d'or de la découverte du système solaire, en particulier depuis le lancement des premières sondes durant les années 60. Toutes les planètes, plusieurs satellites, quelques astéroïdes et une poignée de comètes ont été visités, frappés ou observés de près. En 2015, année faste, deux planètes naines, Cérès et Pluton, seront visitées pour la première fois, ce qui complétera le tour de toutes les catégories d'objets du système solaire. Disons que la visite du Soleil est un peu difficile, mais il y a déjà eu des sondes qui se sont rapprochées autant que possible du Soleil. D'un point de vue historique, on ne peut comparer cette période qu'à celle qui a suivi la découverte du télescope, mais qui, à l'époque, s'est étalée sur 2 siècles et non pas sur seulement 50 ans. Alors maintenant, je vais me tourner effectivement vers mes participants avec des questions éclairs. Essentiellement, on va commencer par la planète qui fascine tout le monde dans la science-fiction et aussi beaucoup de monde hors de la science-fiction. Qu'avons-nous appris de neuf et de passionnant récemment au sujet de Mars? Je vais commencer par M. Lehoucq.
Excusez-moi. Alors, de neuf sur Mars, en fait, on sait beaucoup de choses sur Mars maintenant, puisqu'on a envoyé évidemment un certain nombre de robots. Vous avez tous entendu parler d'abord du robot Sojourner, qui était un petit robot qui avait en gros la taille d'une boîte à chaussures, et puis ensuite Opportunity et Spirit, c'est des robots un peu plus gros, et puis enfin Curiosity, qui est maintenant en gros comme une voiture, comme une petite voiture qui fait 900 kg. Donc on a appris énormément de choses sur Mars, sur sa géologie, sur son évolution. On est maintenant définitivement sûr de à peu près 10 façons différentes que de l'eau liquide a coulé sur Mars, et coule parfois encore sur Mars, mais de manière extrêmement fugitive. On a vu des traces de coulures récentes, ça veut dire le satellite, il y a des satellites qui sont en orbite autour de Mars et qui voient la surface de Mars avec une grande précision. Ils passent au-dessus d'une région et puis ils repassent au rythme de leur rotation autour de Mars, de leur évolution plutôt autour de Mars. Et un endroit, on ne voit rien, puis on repasse quelques mois plus tard et il y a quelque chose qui ressemble à une coulure. Alors ça peut être de la glace qui est sous le régolithe martien, sous la poussière qui est à la surface martienne et qui, sous l'effet du réchauffement martien dû aux saisons, parce que Mars, comme la Terre, a des saisons, et puis s'écoule, et puis s'évapore, parce que la pression atmosphérique de Mars étant très faible, l'eau liquide ne peut pas perdurer. Si vous mettez un verre d'eau liquide, vous prenez le verre, vous le posez à la surface de Mars, très rapidement il va s'évaporer, car la pression atmosphérique de Mars est 160 fois moins élevée que la pression atmosphérique terrienne. Donc du coup, on sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, on sait qu'il y a eu des écoulements qui ont été assez vastes, des fleuves, des choses où l'on voit des pierres qui ont roulé, des galets qui ont été formés, donc des choses qui prennent un certain temps. Des structures géologiques sédimentaires apparaissent. Là, par exemple, où la sonde Curiosity s'est posée, elle s'est posée dans une région qui, justement, a à peu près 2000 mètres de sédiments apparents. Donc, il va falloir d'abord se diriger vers ces sédiments et puis essayer de les explorer couche après couche en s'en approchant, mais évidemment de loin, parce que c'est sur une falaise ou sur quelque chose qui est un peu vertical. Donc la sonde va passer, pas la sonde, mais le robot va passer loin, mais avec ses instruments, on va peut-être explorer ça. Il approche doucement, les scientifiques font avancer ces robots avec une grande lenteur, avec majesté. Ça correspond à quelques mètres, quelques dizaines de mètres par jour. D'abord, parce qu'il faut imaginer, quand on envoie une information sur Mars, ça peut prendre des dizaines de minutes pour arriver. Et puis le robot doit prendre cette information, exécuter l'ordre et puis donner la réponse. Ça s'est bien passé. Donc c'est assez lent. Et de surcroît aussi, on veut explorer en détail ce qui se passe, hein, pour ne rien rater. Donc Curiosity, pour l'instant, on n'a pas fait de découverte fracassante encore. Donc les gens sont un peu, tendus, en attente. Hein. Il faut qu'ils trouvent quelque chose avant que peut-être il cesse de fonctionner. C'est un robot qui est prévu pour fonctionner 3 ans. La fiabilité de l'industrie spatiale étant ce qu'elle est, on peut avoir confiance sur le fait qu'il fonctionnera pendant une bonne période. Spirit et Opportunity ne devaient fonctionner que quelques mois. Ils ont fonctionné chacun plusieurs années avant que l'un des deux tombe en panne. Et l'autre, il est quand même un peu bancal maintenant. Donc on a découvert énormément de choses sur Mars. On connaît, je pense, et peut-être Peter Watts, qui lui connaît bien, et par ses œuvres aussi, le fond des océans. Je pense qu'on connaît mieux la surface de Mars que le fond des océans, assez curieusement. On l'a beaucoup mieux cartographié. Évidemment, on ne connaît pas tout, et de loin, de la surface de Mars, mais on la connaît beaucoup mieux que le fond des océans terrestres, hein, qui représente quand même les 2/3 de la surface de la Terre. Donc voilà ce que je peux dire. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Mars, bien sûr, mais ce que je peux dire sur Mars, c'est pour laisser la parole ensuite à mes collègues.
Oui, déjà, je confirme. On connaît beaucoup mieux Mars que la Terre, et pas seulement le fond des océans, mais même la surface des continents, puisqu'en réalité, tout ce qui est satellite terrestre est perturbé par l'atmosphère et la végétation, ce qui fait qu'on connaît beaucoup mieux Mars, qui n'a pas une grosse atmosphère et pas une grosse végétation, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on a énormément plus de détails sur l'ensemble de la minéralogie et de la topographie martienne que ce qu'il y a sur la Terre, au niveau du détail. Pour ce qui est de vraiment nouveau, tu as très bien resitué le contexte historique de l'exploration. Je pense qu'on peut considérer la nouveauté de l'exploration martienne à deux niveaux. D'abord, niveau technologique, ceux qui ont suivi un petit peu le devenir de la mission, enfin, des missions d'exploration martienne, découvrent avec le robot Curiosity la capacité qu'on a aujourd'hui à envoyer 900 kg de matériaux sur la surface d'une autre planète et de faire une science, même si elle est avec relativement peu de kilos, à peine 90 au final, de faire une science exceptionnelle qui devient assez similaire.
Est-ce qu'on peut redire ça ? Il y a 90 kg de science ?
Oui, 10% de la masse totale à peu près pour les instruments scientifiques.
Pour réaliser ça, c'est toujours un chiffre.
Ouais. Ce qui est énorme comparativement à ce qu'on va faire sur les systèmes externes, mais c'est un autre débat. Mais ceci étant, la capacité qu'on a aujourd'hui à faire de la science sur Mars est réellement nouvelle parce qu'on arrive à un degré de précision qui avoisine celui qu'on fait dans nos laboratoires terrestres. Et ça, c'est très neuf. C'est une nouveauté technologique, selon moi, qui va aller de l'avant au niveau robotique, mais qui va aller de l'avant. On a vraiment franchi un cap avec la mission Curiosity dans l'exploration du système solaire dans le contexte martien. Au niveau scientifique, je placerai la nouveauté comme tu l'as dit, sur l'évolution du débat. En fait, pendant très longtemps, on a été convaincus, on était quasiment certains, nous scientifiques, qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Il restait à trouver les preuves, il restait à le démontrer. Bon, Curiosity a confirmé beaucoup de choses, la présence de minéraux très hydratés, comme des gypses, le fait qu'il a accessoirement atterri dans le lit d'une rivière, c'est maintenant confirmé. Bon, tout ça nous conforte dans l'idée qu'il y a eu de l'eau sur Mars, et pour aller plus loin, que Mars a été habitable. Dans le contexte habitable, il y a de l'eau, il y a de l'énergie disponible, il y a une atmosphère pour ce qui nous concerne, et puis aussi il y a cette capacité à avoir les conditions de pression-température cohérentes avec l'apparition possible d'une vie. Nous sommes convaincus que sur Mars, ça a été le cas, nous sommes aussi convaincus que ça a disparu il y a un peu plus de 3 milliards d'années, même franchement plus que 3 milliards d'années. Le débat a évolué aujourd'hui, et Curiosity est sur ce problème-là, à ce qui est devenu un fait, à comment ça s'est passé. Pourquoi une planète comme Mars, qui a été comme la Terre à un moment donné, ne l'est plus ? Qu'est-ce qui fait qu'une planète un peu trop petite, un peu trop loin du Soleil, a évolué d'un contexte purement habitable qui est celui de la Terre à un contexte extraordinairement hostile qui est celui de Mars aujourd'hui ? Le débat scientifique aujourd'hui, il est là-dessus. Une grande partie des orientations de la mission Curiosity, c'est ça. Les missions qui vont suivre, c'est toujours ce même débat. C'est aller vers cette compréhension de ce qui fait que la Terre est unique dans le système solaire. Le débat scientifique, dans sa globalité sur Mars, a évolué vers ce contexte-là. Voilà, pour aussi augmenter un petit peu la vision de l'exploration martienne aujourd'hui.
As the sort of the token biologist, I'm going to sort of go where angels fear to tread and talk a little more about the life issue. And also, as a complete ignoramus next to actual astrophysicists and planetologists, I expect that much of what I say is outdated or wrong, and I expect to be corrected. In fact, I count on being corrected, because a lot of the stuff that I remember is a few years old, at least. One of the more recent discoveries that I've heard about or just sort of read about, not as an expert but as a layperson, was the possible existence of small pockets of methane a few years back, which could have been the result of some kind of microbial life or some kind of geochemical process. It was quite exciting for a while. Recent results apparently have contradicted that in the sense that sort of the overall methane concentration in Mars's atmosphere seems way, way, way down below the level at which any kind of methanogenic bacteria might have produced it. So my understanding is that there's still some controversy as to whether or not anything is metabolizing that still exists on the planet. Accepting that absence of evidence is not evidence of absence, there still isn't any evidence of life on Mars. However, going back a few billion years, as has already been mentioned, there is apparently a fair amount of biochemical evidence to suggest that Mars was actually a more hospitable birthing place for life than Earth was at the same time. I'm not familiar with the details, but my understanding is it's something to do with the catalytic role of electrolytic clays in essentially taking biomolecules and sort of mushing them together into something that developed into a metabolism or had a metabolizing system. Apparently, there are certain stepping stones in that process which could happen much more easily under Martian conditions than could have happened under Earth conditions. And this has added a little bit of fuel to the suggestion that we are, in fact, all ultimately Martians, that it's more parsimonious, perhaps, to assume that life got its start on Mars, and then after having made those initial critical steps, hitched a ride on an asteroid and landed on Earth, which isn't that outlandish, given that many of the biomolecules and so on that arrived at Earth in one way or another probably came from comets or from outer space anyway. There's a fair amount of biochemistry that occurs in space. So I am holding out hope that we will find something on Mars that might still metabolize, and if science fiction writers are extremely lucky, it will prove to be pernicious and will create some kind of a plague and will produce all sorts of storytelling ideas. What have I said that is completely obsolete and wrong at this point?
Nothing wrong. No.
Perfect. Comme écrivain de science-fiction moi-même, je confirme que souvent, on est d'abord intéressé par la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs. Et ensuite, même les écrivains qui se tiennent le mieux informés ne peuvent pas être, contrairement à des scientifiques, en pointe sur tous les domaines en même temps. Et parfois, cela va dépendre de ce qui sort dans la presse, de ce qui devient nécessaire de savoir pour quelque chose qu'on écrit. J'ai moi-même écrit un peu sur Mars. Une nouvelle pour jeunes que j'avais écrite il y a longtemps s'est retrouvée dans une anthologie parue cette année, je pense, Destination Mars, chez une maison d'édition bretonne. Et j'avais eu l'occasion, justement, je pense que la question du méthane, là aussi les planétologues me corrigeront, donc ça a été détecté, mais la confirmation reste véritable, mais qu'il y a une théorie relativement récente qui suggère que, je pense, l'activité du soleil en interaction avec la glace et certains minéraux générerait le méthane et non une activité microbienne. Ce qui, quelque part, qu'elle soit exacte ou non, cette théorie illustre aussi que l'exploration planétaire parfois nous apprend des choses au passage ou nous force à penser à des choses qu'on n'aurait jamais pensé autrement, parce que au départ, beaucoup de personnes se sont dit que s'il y a du méthane, c'est forcément d'origine biologique, alors que maintenant, on a trouvé qu'il y a peut-être une autre théorie qui postulerait une source inorganique. Je vais laisser M. Grasset commenter là-dessus dans un instant, mais annoncer la prochaine question, qui est essentiellement de se déplacer de Mars vers les lunes de Jupiter. Si M. Grasset a quelque chose à ajouter au sujet du méthane martien.
Ah oui, vous m'avez vu prendre le micro, j'ai besoin de faire un commentaire. Aujourd'hui, cette question de l'abondance du méthane est évidemment très controversée. Donc le débat, c'est qu'à un moment donné, on a pensé qu'il y avait en effet du méthane en relativement grande abondance dans l'atmosphère de Mars, qui pose évidemment toutes les questions de la chimie carbonée, etc. On est de plus en plus convaincu que c'est un artefact de mesure et qu'il n'y a en réalité quasiment pas de méthane dans l'atmosphère martienne, ce que semblent confirmer les données Curiosity, puisque, comme je vous l'ai dit, avec les instruments très pointus qu'il y a aujourd'hui sur Mars, les rares analyses qui ont été faites sur l'atmosphère de surface semblent confirmer la très rare abondance de méthane, voire l'absence totale de méthane de l'atmosphère. Ceci étant, ce sera confirmé par c'est un des objectifs d'une des missions à venir qui va être focalisée justement sur la composition précise de l'atmosphère martienne. Mais aujourd'hui, bon, vous l'avez compris, je fais plutôt partie des sceptiques qui pensent que ce débat sur l'atmosphère du méthane est en réalité associé à une, non pas une erreur, mais une mauvaise interprétation des analyses qui ont été faites sur une récente mission. Voilà. Mais ce n'est pas du tout un problème, ça fait partie de l'activité scientifique. Mais aujourd'hui, le débat a évolué vers plutôt une quasi-absence du méthane dans l'atmosphère martienne.
Alors, qu'est-ce que nous avons appris de neuf et de passionnant récemment au sujet des lunes de Jupiter?
Je commence. Alors, comme tu l'as dit en introduction, je les connais assez bien, les lunes de Jupiter, depuis quelques années. On n'a pas appris grand-chose, soyons extrêmement clairs. On n'a pas appris grand-chose depuis la mission Galiléo. La mission Galiléo a gravité dans le système de Jupiter de 1998 à 2004. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, pour les passionnés de planétologie qui regardent les images de Jupiter et de ses lunes, pratiquement tout ce que vous voyez vient de cette mission spatiale qui a donc donné ses dernières images en 2004. La vraie nouveauté, c'est qu'on y retourne. L'Agence spatiale européenne a sélectionné en 2012 la prochaine mission de son programme qui s'appelle Cosmic Vision 2015-2025, sur la décennie 2015-2025, a sélectionné la mission Retour vers Jupiter comme la mission large de son programme décennal. Donc c'est ça la nouveauté, c'est que la mission Galiléo a démontré qu'il y avait énormément de choses à faire là-bas, et elle l'a tellement bien démontré que c'est le lauréat de la compétition européenne, c'est la mission qui va partir. Les Américains sont dans la même logique, ils essayent d'envoyer un engin vers Jupiter dans à peu près le même calendrier, c'est-à-dire sur la décennie 2020-2030, dans l'objectif très clair d'étudier, tout comme les Européens, d'étudier l'intérieur des lunes. Parce que la mission Galiléo dès 2004 a permis de, je dirais aujourd'hui, on dit affirmer qu'il y a des océans à l'intérieur des lunes géantes. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film... Des lunes glacées, ou ce que j'appelle les lunes géantes, parce que je rappelle Ganymède, la plus grosse, est plus grosse que Mercure, par exemple. C'est vraiment des gros, très grosses lunes. Les lunes de Galilée sont des lunes très grosses. Et peut-être certains d'entre vous ont vu le film Europa Report qui a été diffusé jeudi. Bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait débattre, mais c'est pas le sujet du jour. Mais le fond du problème, qui est envoyer une mission spatiale pour caractériser les océans des lunes de glace, est complètement justifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus par l'analyse des champs magnétiques et les perturbations du champ magnétique qui est créé par les lunes elles-mêmes, qu'il existe des courants conducteurs à l'intérieur de ces lunes, c'est-à-dire des océans salés, très probablement salés. Quel type de sel, il y a des débats là-dessus, mais il y a des océans salés autour de Jupiter, et attention, ce n'est pas des petits trucs. On parle de, pour Europe, c'est le plus petit, c'est un océan qui va faire 100 km de profondeur. Par rapport aux 4500 mètres des océans terrestres, c'est relativement important. Europa, c'est le plus petit, sur Ganymède et Callisto, les deux grosses autres lunes de Jupiter, on pense plutôt à des océans qui font 300 à 400 km d'épaisseur. Donc il y a de l'eau liquide, salée, ça n'a rien à voir avec il y a de la vie ou pas, ce qui est le débat de ce fameux film Europa Report, que j'ai personnellement bien aimé, mais malgré beaucoup d'invraisemblances. Mais la nouveauté aujourd'hui qui justifie les missions vers Jupiter, en dehors de la planète géante elle-même, c'est que dans ces lunes, nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il y a un environnement habitable. Voilà, on en est à ce stade-là. Il va falloir attendre 2030, parce qu'on part en 2022 s'il n'y a pas de report, et il faut 7 ans de voyage. Mais en 2030, on se retrouve et on vous donnera les nouveautés sur les lunes de Jupiter.
Oui, ces océans, ils sont sous une croûte de glace. Ils sont pas. Enfin, je dis ça pour ceux qui sont moins aguerris scientifiquement. On n'arrive pas sur Europe et hop, on se pose à la surface de l'eau et on fait des petites manips.
Oui, pardon.
Il va falloir
précision très importante. Il fait moins 120 degrés là-bas en surface, et donc les océans dont on parle sont au minimum à quelques kilomètres, plutôt quelques dizaines de kilomètres de profondeur sous la glace, dans le cas d'Europa, et plutôt une centaine de kilomètres sous la glace au niveau de Ganymède et Callisto. Donc n'imaginez pas qu'on va y accéder. On va les caractériser, c'est des choses qu'on peut faire depuis l'orbite, c'est compliqué, mais c'est notre métier. On va les caractériser, mais n'allez surtout pas imaginer qu'en 2030, on va envoyer des engins qui vont étudier les océans et rentrer dedans, et on n'est pas du tout dans un contexte où ce sont des environnements qu'on va explorer facilement.
Il faudrait envoyer Bruce Willis,
c'est précision très importante.
Bien sûr, Bruce Willis, le grand frère, celui qui fait des trous partout. Oui, il y a une autre lune qui est intéressante. Elle est moins intéressante qu'Europe pour cette possibilité d'une vie à cause d'Europe qui a donc cet océan sous-glaciaire. Elle est intéressante parce qu'il s'y passe des choses qu'on ne trouve que sur Terre, qui est le volcanisme, c'est la lune Io, où il se passe un volcanisme de roches liquides. On parlera peut-être tout à l'heure des lunes de Saturne, où il y a un autre volcanisme assez curieux qui se produit, mais qui est un cryovolcanisme, un volcanisme de basse température. Et sur Io, c'est toujours assez stupéfiant de voir ces images où l'on voit des volcans en activité à la surface de Io. C'est le seul endroit du système solaire, à part la Terre, où il y a encore des volcans en activité. Et s'il y en a en activité sur la surface de Io, c'est qu'il y a l'influence de Jupiter qui, par les forces de marée qu'elle exerce sur Io, Io qui n'a pas d'océan, bien sûr, hein, qui est une surface solide, Io est littéralement mâché, si je dirais, écrabouillé, relâché au rythme de sa révolution autour de Jupiter, sous l'effet des forces de marée de Jupiter, et qui a pour conséquence de créer ce volcanisme. Et on voit, il y a des images spectaculaires, où l'on voit d'abord, vu de l'orbite et vu de dessus, le panache de matière éjectée, et on voit l'ombre du panache de matière éjectée sur la surface de Io, ou à l'inverse, quand on voit sur le limbe de Io, on voit sur des hauteurs de l'ordre d'une centaine de kilomètres, on voit les éjections de matière qui montent à des altitudes considérables, parce que la gravité de Io, Io est quelque chose comme un peu plus grosse que la Lune, peut-être de l'ordre de la, ou un tout petit peu plus de l'ordre de la Lune comme taille. Donc avec une gravité plus faible que celle de la Terre, les éjections peuvent aller à des altitudes considérables, et on voit ces panaches volcaniques monter à une centaine de kilomètres et se retrouver à des distances considérables. Bref, sur Io, il y a une sorte de monde un peu infernal, qui est probablement pas adapté à la vie, en tout cas telle qu'on la connaît sur Terre, mais qui est aussi extrêmement intéressant à étudier, parce que là, il y a de l'intérieur, des morceaux de l'intérieur de Io qui remontent à la surface et qui pourront nous renseigner sur la structure interne, sans aller creuser pour le coup, sur de ces lunes. Sachant que ces choses-là, on les a déjà regardées avec Galiléo, et même d'ailleurs avec le télescope spatial Hubble, qui a pu faire certaines images des lunes de Jupiter, vu sa résolution et sa qualité optique, fait des images. Donc, les lunes de Jupiter, les lignes géantes de Jupiter, sont évidemment extraordinairement intéressantes, et singulièrement, évidemment, Europe. D'ailleurs, Europa Report, s'il y a un film sur Europe, c'est parce que précisément, il y a cette eau liquide, cet océan liquide, et qu'on se dit, s'il y a de l'eau liquide, elle est donc à plus que 0 degré, mais elle est sous une grosse couche de glace. Il y a la chaleur interne de la planète. On se dit, allez, c'est quand même... Allez, on y croit. Mais bon, c'est pas facile d'y aller. Donc on peut imaginer des choses. Et c'est un endroit qui serait évidemment formidablement intéressant d'aller explorer en détail. Mais il faut creuser. Rappelez-vous, on a déjà creusé dans un lac sous-glaciaire, vers un lac sous-glaciaire terrestre, le lac Vostok, qui est sous l'Antarctique. Les Russes ont fait ça sous à peu près 4000 mètres de glace. Et ils ont mis un grand nombre d'années pour atteindre les grands nombres d'années sur Terre, dans les conditions antarctiques, pour atteindre les 4000 mètres de profondeur du lac. Là, on est sur Europe, il fait beaucoup plus froid, donc on n'est pas sur Terre, il faut 10 ans, enfin même plus que ça, il faut 7 ans pour y aller, il faut enfin bon, vous imaginez, on n'est pas encore au stade où on pourra creuser les 10 kilomètres, pas les 4000 kilomètres, les 4 kilomètres, les 10 kilomètres ou 10 ou 15 kilomètres de glace pour aller dans ce lac sous-glaciaire. Bon, ça serait évidemment formidablement intéressant. Et y aller sans amener, c'était ça une des difficultés, c'est quand à un moment donné, il ne reste plus que 20 cm de glace pour arriver au lac Vostok, quand vous percez, il ne faut pas risquer d'amener des bactéries de surface qui vont polluer l'environnement. Vous voulez savoir, y a-t-il des bactéries qui ont évolué, qui sont restées vivantes et qui ont poursuivi leur évolution depuis à peu près 800 000 ans que ce lac sous-glaciaire s'est formé. Voilà. Donc il faut, si on devait aller sur Europe faire ça, ça pose des tas de problèmes de ne pas polluer. Ça se pose aussi d'ailleurs même l'exploration de surface de Mars, hein, les engins qu'on envoie à la surface de Mars et même à la surface de la Lune ont été désinfectés, si je veux dire. On a enlevé toutes les bactéries qu'on a pu enlever, on les a passées aux rayons ultraviolets pour éviter d'amener des bactéries terrestres qui éventuellement, on ne sait pas, on ne sait jamais, pourraient survivre et qui donc pollueraient nos mesures d'une éventuelle activité biochimique vivante à la surface de ces planètes qu'on explore.
I have a kind of a personal fondness for hydrothermal rift vents, which are essentially chemically based rather than photosynthetically based ecosystems on the floor of the deep sea. And everybody is aware that, every time we discover something about liquid water somewhere else in the universe, people always point to, oh yes, we have, microbes living deep in the lithosphere that have only breathed or reproduced twice since the French Revolution, or oh, look at the archaea living in acidic hot springs in Yellowstone, and the hydrothermal rift vents are always in there as an environment to which extant life can adapt. But there's also a school of thought, a pretty strong one, that suggests that life on this planet actually got started in environments chemically, physically, much like hydrothermal rift vents. And you put that together with the tidal stress generating internal heat in these Jovian moons, and it becomes quite intriguing as a potential mechanical, you can imagine life actually evolving in that kind of an environment in a way not dissimilar to the way a number of people think it might have evolved here on this one. I do hear rumors, which I would like you guys to comment on, that Charon, Pluto's partner, undergoes the same kind of tidal stress that some of the Jovian moons do, and that there might be evidence of, very circumstantial evidence, but that it's not out of the realm of possibility that Charon might also have internally heated oceans that could presumably extend the habitable zone, the Goldilocks zone, out as far as Pluto. Is that, am I right in hearing that?
Oui, c'est correct. Pluton-Charon, le couple Pluton-Charon est ce qu'on appelle verrouillé d'un point de vue gravitationnel. Et on a en effet la possibilité, au niveau des forces gravitationnelles associées, d'imaginer une énergie suffisante pour avoir des réservoirs d'eau liquide à l'intérieur de Charon. Ce n'est pas seulement pour Charon, on se pose la question sur beaucoup de petites lunes du système de Saturne, du système de Jupiter aussi. Et il y a bien sûr, comme le dit Roland, il y a aussi bien sûr Encélade, où on a cette évidence, Encélade, une des lunes de Saturne, où là c'est carrément actif. Aujourd'hui, on a ces geysers au-dessus d'Encélade qui démontrent qu'il y a un réservoir liquide sous le pôle sud qui éjecte de la matière en permanence. Donc, en fait, aujourd'hui, le débat, il est plus de deviner quelle est la fréquence de ces occurrences, parce que c'est clairement quelque chose qui semble être beaucoup plus commun qu'on l'imaginait au départ. Ça reste à prouver, mais tous les modèles vont dans ce sens que finalement, c'est sans doute quelque chose d'assez commun, d'avoir ces réservoirs d'eau liquide, soit globaux, soit locaux, sous des épaisses croûtes de glace au niveau du système solaire externe.
Continuons peut-être avec une planète qui est en ce moment même en train d'être visitée et explorée par une sonde pour la première fois depuis plusieurs années, Mercure. Est-ce que nos participants peuvent nous apprendre qu'est-ce qui a été observé, appris de neuf et de passionnant récemment sur Mercure avec la sonde Messenger, je crois?
Alors Mercure, c'est un autre monde. Mercure, on est près du Soleil. Vous savez, c'est une relativement petite planète. Elle n'a aucun intérêt en astrobiologie, les problèmes de l'habitabilité, etc. On est dans un monde d'une hostilité extraordinaire. Pas d'atmosphère, pas de champ magnétique propre. D'un côté, il fait très chaud, de l'autre, il fait extraordinairement froid. C'est bloqué, hein. Il y a une partie jour, une partie nuit, et ça ne se mélange pas. L'horreur. Un enfer pour les missions spatiales, arriver à se mettre en orbite autour de Mercure est quelque chose d'assez complexe, et un enfer tout simplement au niveau des conditions existant à la surface. Bon, la mission Messenger est en orbite là-bas depuis maintenant plus de 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est une orbite elliptique, elle a maintenant fait la cartographie complète de la surface à relativement haute résolution spatiale, c'est-à-dire qu'on a une vision, une compréhension de ce qu'est la surface et les caractéristiques de cette planète qu'on n'avait pas auparavant, qui confirme tout ce que je viens de vous dire, que c'est un cauchemar. Au-delà de ça, c'est pas une planète comme la Terre. Mercure est une planète très étrange parce que c'est, en fait, vous avez peut-être l'impression, ceux qui connaissent, que c'est une planète de roche, parce qu'on voit de la surface, c'est de la roche, comme sur la Terre ou Mars ou Vénus, et puis sans doute un noyau de fer. En fait, imaginez plutôt que Mercure, c'est une boule de fer. Une boule de fer avec une légère pellicule de roche, parce qu'en fait, une très grosse partie de la roche s'est volatilisée dans les premiers âges de l'histoire de la planète, tellement elle était proche du Soleil. Donc ce qu'a dit Messenger, ce qu'a confirmé Messenger, mais qu'on savait déjà, hein, c'est cette abondance du fer, et elle est allée bien au-delà de ça, c'est-à-dire que cette mission nous a permis de comprendre un petit peu quelle était la dynamique du noyau de Mercure, et en fait, les caractéristiques en fait, de ce qu'est un noyau de fer dans un contexte où finalement on a la chance de ne pas avoir une grosse pellicule de silicate autour. Alors c'est intéressant pour pas mal de raisons, ça a aussi beaucoup d'impact sur nos connaissances et notre compréhension de ce que sont les exoplanètes autour d'autres étoiles qui sont très proches de leur étoile. on commence à avoir avec Mercure une petite idée de ce que ça peut faire. Au-delà de ça, bon, ce que j'appellerais de découverte récente, une des plus belles, je pense, c'est la découverte de la glace. Peut-être que certains ont appris ça. On a découvert de la glace au pôle. Ce qui est complètement antinomique par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est complètement aberrant, vu l'enfer que c'est qu'il y ait de la glace qui existe toujours au pôle de Mercure. Et en fait, aujourd'hui, on a compris que c'est très probablement de la glace cométaire. Des comètes qui se désagrègent en arrivant près du Soleil, qui ont déposé une partie de leur matière sur les zones polaires, et au niveau des pôles, c'est préservé. Et c'était un peu une grosse surprise de découvrir qu'on arrive à préserver de la glace sur les pôles de Mercure, même si ça n'a rien à voir avec Mercure, c'est un des grands scoops pour ceux qui ont suivi de ce qu'a été cette mission. Au-delà de ça, mais ça devient très technique, c'est la caractérisation du champ magnétique très particulier de cette planète qui nous permet de un peu mieux comprendre aussi la façon dont fonctionne le champ magnétique terrestre. Mais là, on rentre dans de l'artillerie lourde, je dirais, au niveau des équations et des problèmes du champ magnétique, c'est toujours cauchemardesque. Mais Mercure, on comprenait pas trop bien comment ça marchait, et avec cette mission Messenger, on a une très très belle compréhension de comment fluctue avec l'activité solaire et comment fonctionne le champ magnétique de cette planète très particulière.
Peter, Roland, avez-vous des choses à ajouter relativement brève sur Mercure?
Oui, deux choses très simples sur Mercure. Pour donner une idée comme des températures élevées ou très basses, la température au midi solaire sur la surface de Mercure, c'est à peu près 450 degrés Celsius. Et à l'inverse, le côté nuit, au minuit solaire, si j'ose dire, c'est quelque chose comme moins 150 degrés Celsius. Donc il y a la roche, vous comprenez que la roche, elle est à la fois refroidie et chauffée intensément, donc ça travaille. Il y a une sorte de... Comment dire, c'est pas de la tectonique, bien sûr, c'est pas du mouvement, mais une sorte d'érosion thermique finalement. Ça se contracte quand c'est froid, ça se dilate quand c'est chaud. Et puis évidemment, au pôle, là où les rayons solaires sont les plus rasants, eh bien, on se retrouve avec des températures qui peuvent être assez basses, en particulier au fond de cratères qui sont auprès des pôles et qui ne voient jamais la lumière solaire, et donc où les températures très basses permettent de maintenir, très basses, c'est-à-dire moins 150, moins 180 degrés Celsius, permettent de maintenir des glaces permanentes. Si on voulait aller sur Mercure, c'est là où il faut aller, au pôle, et se planquer de l'ombre de la lumière solaire. Parce qu'en plein midi solaire, le flux lumineux qu'on reçoit sur Mercure, c'est 10 fois le flux qu'on reçoit sur la Terre, à peu près entre... Ça dépend de la distance de Mercure qui peut fluctuer pas mal par rapport... Enfin, qui fluctue plus relativement que celle de la Terre. Et ça varie entre, on va dire, 4 et 10 fois le flux terrestre. Le flux terrestre, c'est 1300 watts par mètre carré. Donc là, on reçoit 13 000 watts par mètre carré. Quand ça va vraiment mal, je peux vous dire, ça canonne. Ce n'est pas une chaude journée d'été, là. C'est vraiment chaud, quoi. Donc il ne faut pas traîner à la surface de Mercure en plein soleil. Vous allez bronzer un peu vite, un peu trop vite.
Peter?
I have no insights or hallucinations or questions about Mercury.
Alors, comme le temps nous presse un peu, je vais passer essentiellement à une question générale, une question palmarès. En général, peut-être, si chacun de vous pourrait nous dire, qu'est-ce qui a changé le plus dans notre connaissance du système solaire depuis 20, 30, 40 ans, ou qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans les nouvelles découvertes de ces nouveaux mondes du système solaire? Encore une fois, ça pourrait être depuis un an, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Le plus intéressant, le plus nouveau, ce qui vous semble la chose qui, à votre avis, vous devez dire maintenant, ici et maintenant.
Alors je vais commencer. Comme ça, je n'aurai pas le souci de trouver une nouvelle chose une fois que je l'aurai dite. moi, ce qui me frappe le plus, que bon, moi, dans les années 70, je suivais les missions voyageurs. Évidemment, j'étais ado, je suivais ça. Et c'était déjà spectaculaire d'avoir des images. On n'avait jamais vu ces mondes et on les voyait, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et ce qui a le plus évolué depuis ce moment-là, à mon avis, mais sans être un grand spécialiste de ça, c'est vraiment qu'on a maintenant découvert non pas des poches de vie, mais des endroits où la vie pourrait se développer. Et ça relève de deux choses. D'une part, on a réalisé qu'il y avait des océans sous-glaciaires sur ces lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Et d'autre part, comme le disait Peter, on a réalisé dans le même intervalle de temps qu'il existait de la vie qui pouvait vivre sous une forme plutôt chimique que sous une forme photosynthétique, chimique ou minérale que sous une forme biosynthétique, qui est au fond des océans. Et donc réaliser que sur Terre, la vie était beaucoup plus répandue à des endroits beaucoup plus inattendus qu'on ne l'imaginait, et que du coup, quand on a aussi réalisé qu'il y avait ces possibilités d'eau liquide dans des conditions un peu étonnantes, on va dire, pas de lumière solaire, hein, sous 10 km de glace, il fait nuit en permanence, eh bien peut-être de la vie pourrait se développer là-dedans. Donc c'est cette conjonction entre une meilleure compréhension de la Terre finalement et de la vie ou telle qu'elle est sur Terre, et puis de réaliser qu'il y a des conditions qui peut-être se prêteraient à cette vie dans d'autres endroits que les planètes, les lunes des planètes, les petits machins, les cailloux ridicules auxquels on ne s'intéressait pas trop, à part pour avoir des belles images.
The most interesting paradigm shift I've experienced is getting us off the planetary surfaces entirely and looking at things like asteroids and comets, believe it or not. I mean, we've found fatty acids, which is an essential component of cell membranes, for example, on asteroids. Comets are covered with kind of a weird organic tar. NASA's been working on something called a deep space simulator for over a decade now, I think, where they basically just take basic compounds, carbon monoxide, ammonia, methanol, and expose it to ultraviolet light under sort of deep space conditions of a sort of temperature and hard vacuum and so on. And they've... As a result of these experiments, they've developed hundreds of different types of organic molecules. Now, that in itself isn't all that surprising. I mean, we've known for a while that there's a lot of aldehydes and acids and so on floating around in molecular dust clouds. Basic biochemistry seems to be pretty common in deep space. But one of the things that that this deep space simulator came up with were these little self-contained vesicles that glowed under ultraviolet light. Which, you know, may not sound like much other than your sort of your average black velvet 60s era Elvis painting, but when you actually think about what's going on, you're talking about a self-contained membrane enclosed system that converts one form of energy to another, which is at least a rudimentary step towards a metabolism. And that particular paper that I'm basing that on came out, I think, in 2001. And they were very careful to, the authors were very careful to talk about, basically to talk about origin of life on Earth. This was essentially how they were regarding it. But in an unguarded moment, one of those authors in an interview allowed that there could probably be some really, really interesting and complex biochemistry happening in the hearts of comets, which are, after all, mainly made out of water. And you're also talking about an object which essentially sort of comes in this parabolic orbit, spends a lot of time close to the sun, and then millions of years out in deep space. There's a huge range of sort of heating and cooling that goes on that could act as a fairly catalytic thermal regime for certain types of biochemistry. I think maybe we should start looking away from planets and onto things like comets as a possible abode for life. One other tiny comment I'm going to make is there's also some very, very small circumstantial evidence, perhaps, for some kind of atmospheric microbial life on Venus. If you pay attention to a guy called Schultz-Mekich, out of University of Texas, apparently the upper levels of Venus are absorbing way more ultraviolet than they have any right to biochemically. Again, I read this like 5-6 years ago, so this may have been completely disproven since then. But some kind of photosynthetic pigment might account for that, from what I have been told. So nobody's really looking for anything particularly intelligent that's going to build any kind of interstellar flying saucers, but I remain hopeful that we could find at least something with a metabolism in a much wider range of physical environments than we're even looking at even early in the 21st century at this point.
Je vais faire le mauvais élève, je vais pas répondre à la question. C'est mon droit. Pour une raison simple, c'est que je peux pas prendre parti. Toutes les découvertes actuelles suivant son domaine de compétence, la découverte des champs magnétiques induits des lunes de Jupiter, la découverte des lacs de méthane sur Titan, la découverte de l'impact du vent solaire sur l'atmosphère de Vénus parce qu'il n'y a pas de champ magnétique, la cartographie complète de Mars, tout en soi, suivant son domaine de spécialité et suivant ses préférences, est nécessairement ou logiquement la grande découverte, parce que chaque nouvelle mission aujourd'hui apporte des découvertes. Donc J'ai évidemment mes préférences, mais c'est mon problème. Je vais répondre donc différemment. De mon point de vue, qui baigne dans le milieu à longueur de journée, ce qui est exceptionnel depuis maintenant 20 ans, c'est qu'on a réalisé qu'on ne peut plus y aller tout seul. Je veux dire, la France ne peut pas faire une mission dans l'espace. Les États-Unis, contrairement peut-être à ce que beaucoup de gens croient encore, la NASA toute seule ne peut plus faire une mission vers le système solaire externe toute seule. Ça n'est plus possible. L'hostilité de l'espace, l'hostilité de ces mondes dont on a parlé pendant presque une heure est tellement grande que les missions qu'on veut envoyer aujourd'hui, qui ne sont plus des missions de découverte, mais des missions de caractérisation, des missions d'études détaillées, nécessitent des compétences, des technologies extrêmement sophistiquées qu'aucune agence spatiale ne peut se payer toute seule aujourd'hui, compte tenu du contexte, compte tenu des choix qui sont faits. Toute mission aujourd'hui est une mission. Je parle des grosses missions, hein. Bien sûr, il y a des missions d'opportunité, mais toutes les grosses missions dont on a parlé sont des missions très, très clairement internationales, avec une très forte internationalité. C'est de plus en plus vrai et ça va aller de plus en plus vers ça. Le robot Curiosity, dont on a beaucoup parlé, est évidemment un projet NASA, avec une contribution européenne extrêmement forte. La mission JUICE, dont on a un peu parlé, qui part vers Jupiter, est un projet européen, avec des instruments américains, un bras pour le magnétomètre qui sera de l'agence japonaise, des contributions du Canada, etc. C'est une mission mondiale. Et je crois, si je devais, mon point de vue sur ce qui est réellement nouveau sur ces 20 dernières années, c'est qu'on n'a plus le choix. On doit évoluer de missions qui restaient quand même dans un contexte de compétition assez clair, même si la compétition reste importante. On doit évoluer vers un contexte de missions d'exploration du système solaire qui sont des missions très très clairement à très forte internationalité avec un potentiel indispensable de l'ensemble des forces vives existantes sur le monde entier dans les agences spatiales. Ça, c'est pour moi la vraie nouveauté. Et j'en ajouterai une autre pour sortir du domaine du système solaire. Il y a quand même ces découvertes de la millième exoplanète, peu importe le débat si c'était la millième ou pas. Aujourd'hui, le débat scientifique a explosé. Le système solaire n'en est qu'un parmi tellement d'autres. Je crois que, comme du coup, je suis affranchi de mes propres compétences, cette découverte qui a été faite de la première exoplanète et puis maintenant de l'évolution du débat sur un contexte multiplanétaire au sens multisystème solaire est selon moi une très très grande révolution de ces dernières années.
Alors malheureusement nous n'avons je ne crois pas le temps de prendre des questions. Alors tout ce qui reste à faire c'est de remercier les participants. Et de vous remercier de votre attention.